VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 26 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
En RDC, 22 civils au moins ont été massacrés pendant le week-end de Noël à Béni, dans l'est du pays.
Au Cameroun, 2 civils ont été tués par un kamikaze dimanche à Mora, dans le nord. On soupçonne le groupe djihadiste nigérian Boko Haram.
Tout sera fait de concert avec le Mali, promet Paris, pour retrouver et libérer Sophie Petronin, une Française enlevée hier à Gao, dans le nord malien.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a convoqué et rencontré l'ambassadeur américain Daniel Shapiro 2 jours après l'adoption à l'ONU d'une résolution défavorable à Israël.
Le chanteur britannique George Michael est mort à son domicile à l'âge de 53 ans.
Et dans la seconde partie de cette édition, nous commencerons notre série rétrospective 2016. Ne manquez pas non plus notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Week-end sanglant à Béni, dans l'est de la RDC, le bilan des attaques lancées par des présumés rebelles ougandais ADF a été revu à la hausse, selon l'administrateur du territoire de Béni, Amissi Kalonda, et d'autres responsables joints par l'AFP. Au moins 22 personnes ont été tuées entre samedi et dimanche. L'armée a tué 4 assaillants et récupéré 2 armes et une machette. Gabi Dorsi l'a joint à Béni, le journaliste Nikez Kibel Beloka.
Ils profitent de festivités pour attaquer, pour tuer. Donc, ils ont attaqué. Samedi, c'était 9 morts. Dimanche, une vingtaine de morts. Parce que, comme c'est la forêt, on ramasse, peut-être demain encore, on va ramasser d'autres, mais disons une vingtaine de morts.
Donc, le bilan risque d'augmenter.
Le bilan risque d'augmenter parce que c'est la forêt. Ils attaquent. Et puis, le lendemain, l'armée et la population cherche un peu ceux qui sont portés disparus.
Mais les FARDC opèrent quand même dans la zone.
Donc la zone est bien militarisée. Il y a les troupes FARDC du général de brigade Marcel Bangou. Les FARDC sont sur place et ils poursuivent l'ennemi.
Ceci dit, comment est la situation sécuritaire en général à Béni?
On a observé un calme relatif. Pendant presque un mois, il n'y a pas eu de massacre. Maintenant, ils reprennent sûrement parce que nous sommes pendant les fêtes. Bon, on ne le souhaite pas, mais je pense qu'ils continueront, même au 31, au 1er janvier, ils continueront parce qu'ils doivent aussi survivre. Ils sont à la recherche de vivre parce que les militaires sont au fond.
Nikez Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Béni en RDC.
Un kamikaze a tué 2 civils en se faisant exploser dimanche à Mora, dans le nord du Cameroun, zone d'activité du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le gouverneur de la région, Mediawa Bakari, a expliqué à l'AFP comment s'est déroulé l'incident.
Le monsieur, ayant arboré maladroitement sa charge, a été aperçu par les membres du comité de vigilance qui l'ont sommé de soulever son habit pour contrôler son torse. Et immédiatement, il a compris qu'il était découvert. Il a été mis à nu. Donc, immédiatement, il a actionné sa charge. Au final, nous avons eu 3 morts, y compris le kamikaze, et 5 blessés. Donc, la vie est hors danger. Profitons également de cette occasion pour appeler les uns et les autres à plus de vigilance et savoir que nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé.
Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Mediawa Bakari.
La France a promis de tout faire de concert avec le Mali pour retrouver et libérer Sophie Petronin, une Française enlevée hier à Gao, dans le nord malien, médecin nutritionniste. Sophie Petronin s'est spécialisée dans l'assistance aux enfants mal nourris au sein de l'association Aide à Gao. Boubacar Touré, notre correspondant sur place, revient sur le rapt.
C'est devant la porte du centre d'accueil des enfants qu'elle a ouvert au quartier Sosokoira en plein cœur de la ville que Sophie Petronin a été enlevée le samedi 24 décembre 2016 vers 17h par des hommes armés à bord d'une Land Cruiser. Ali Oubossou, témoin, nous raconte.
Ils sont venus rapidement et ils l'ont enlevée.
Ils étaient combien?
Ils étaient 3. Ils sont de Tamachek, de couleur blanc. Ils ont pris juste le carré que vous voyez et ils ont monté en haut sur la route de Kidal.
L'enlèvement de Dr Sophie a été un coup dur pour les enfants du centre qui ne réclament que le retour de leur maman. Zainabou Walet Mohamed, pensionnaire du centre.
Comme ma mère, parce qu'elle nous aide de la rendre parce qu'on a besoin d'elle. C'est tout ce qu'on cherche.
Intervenant dans le domaine de l'humanitaire depuis plusieurs années à Gao, Sophie Petronin apporte assistance en nutrition à plusieurs enfants orphelins dont des nourrissons. Les populations de Gao très tristes invitent les autorités maliennes à agir vite pour retrouver la mère des orphelins.
Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal à toute la population de Gao.
Pour l'instant, cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Des combattants de l'organisation islamiste Al-Shabaab ont abattu hier un procureur militaire dans la région autonome du Puntland en Somalie. Le procureur Abdikarim Hassan Ferji a été tué au moment où il sortait de sa voiture devant un restaurant de Bosaso, principale ville de la région. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de cette attaque. L'organisation islamiste a précisé avoir agi en représailles aux condamnations prononcées par la justice militaire contre des adolescents qui lui étaient liés.
En Tunisie, les forces de sécurité intérieure se sont alarmées d'un risque de somalisation de la Tunisie en cas de retour massif des djihadistes tunisiens dans leur pays. Elles ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles, dont la déchéance de nationalité. La Tunisie compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, selon un groupe de travail de l'ONU, et la perspective de leur retour suscite une inquiétude grandissante. À l'appel d'un collectif, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi devant le Parlement à Tunis pour dire non à la repentance et à la liberté pour les groupes terroristes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement israélien continue de faire des remontrances suite au vote du Conseil de sécurité vendredi sur la colonisation en territoire palestinien. Michel Joseph fait le point.
Parmi les diplomates convoqués par le gouvernement israélien pour expliquer le vote de leur pays, figure le représentant de l'administration Obama. Pour la première fois depuis plus de trois décennies, les États-Unis n'ont pas usé de leur vote de veto au Conseil pour bloquer le vote de la résolution proposée par la délégation égyptienne. Ce texte exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et affirme que les colonies n'ont pas de valeur juridique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré hier soir l'ambassadeur Daniel Shapiro, deux jours après l'adoption à l'ONU, grâce à l'abstention américaine de cette résolution défavorable à Israël. De son côté, le Sénégal a vivement réagi contre la décision d'Israël de rappeler son ambassadeur à Dakar et d'annuler son programme d'aide. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Sédou Gueye, a déclaré que la position de Dakar mérite d'être saluée. Et de fait, la communauté internationale salue la position du Sénégal, notamment les pays musulmans, a affirmé M. Gueye sur la télévision publique.
Un groupe de navires chinois conduit par l'unique porte-avions de Pékin est passé au sud de Taïwan et se dirige vers le sud-est, a annoncé aujourd'hui le ministère taïwanais de la Défense. La Chine avait annoncé samedi des manœuvres de porte-avions dans le Pacifique occidental qualifiées d'exercices de routine. Les tensions entre Pékin et Taïwan ont été ravivées ce mois par un entretien téléphonique entre le président élu des États-Unis, Donald Trump, et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.
La Russie observe ce lundi une journée de deuil au lendemain du crash d'un avion militaire en mer Noire avec 92 personnes à son bord, dont des membres des chœurs de l'armée rouge qui allaient célébrer le nouvel an avec les troupes en Russie, en Syrie.
La population de Manille se préparait aujourd'hui au passage du puissant typhon Nocten qui a déjà entraîné des évacuations massives dans l'est des Philippines, gâchant les célébrations de Noël. La tempête qui a touché dimanche l'archipel au niveau de la province de Catanduanes devait évoluer sur une trajectoire nord-ouest accompagnée de vents soufflant à 230 km/h selon l'agence météorologique philippine. Plus de 218 000 personnes ont été évacuées de leur foyer par mesure de précaution et 48 vols intérieurs internationaux ont été annulés, ont indiqué lundi les autorités.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Les investissements chinois en Afrique ont atteint 2,5 milliards de dollars les 10 premiers mois de 2016, soit une hausse de 31% par rapport à la même période en 2015, indique Chine Nouvelle. L'an dernier, Pékin avait annoncé vouloir injecter 60 milliards de dollars en Afrique entre 2016 et 2018 sous forme d'investissements, de prêts et de dons. La fondation BGFI Bank a renouvelé un partenariat avec l'association Terre Rouge Bénin sur l'insertion professionnelle des jeunes de la rue. Les deux organisations qui soutiennent les enfants, plus particulièrement les filles, victimes d'exploitation et de violences, ont développé des projets de boulangerie expérimentale au Bénin. Le service de transfert d'argent instantané par Internet et sur mobile, World Remit, enrichit ses services de retrait en espèces au Bénin, Mali, Sénégal et Togo. Il est désormais possible de retirer des espèces instantanément dans toutes les agences d'Orabank au Bénin, celles de la BSIC au Mali, de la COFINA ou d'Orabank au Sénégal et de la Banque Populaire pour l'Épargne et le Crédit au Togo.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
On démarre par la lutte traditionnelle au Niger. C'est l'événement sportif de cette année.
Oui, 80 lutteurs venus de 8 régions du pays et ils vont s'affronter pendant 9 jours dans l'espoir de succéder à Abdou Kadri, dit Isaka Isaka, vainqueur de la dernière édition et qui vient de Dosso, 38e édition cette année. Et c'est la ville de Tawa qui abrite l'événement. Depuis hier, on aura droit donc à 290 combats dont la finale aura lieu le 3 janvier prochain.
Football avec la 6e journée du championnat gabonais de D1.
Et le CF Mounana continue sa marche en avant, vainqueur du Stade Mandji 1-0 pour garder son invincibilité depuis le début de la saison. 16 points au classement, déception par contre pour Missile FC, battu à domicile par Akanda 1-0, ce qui profite à Manga Sport qui a écrasé Olympique Mandji 3-0 pour partager la deuxième place avec les militaires. Les deux équipes ont 12 points. Par contre, Kano 105, plus que jamais en difficulté, dernier au classement, le club de Port-Gentil vient d'enregistrer son premier point 0-0 face à l'US Bitam.
En Algérie, le MC Alger est champion d'automne.
Les Rouges et Noirs bouclent la phase aller du championnat en tête avec 30 points grâce à leur succès 3-1 face à Bel Abbès. MC Alger ne peut plus être rejoint au classement puisque l'USM Alger, le champion en titre, a été défait par JS Soara 1-0. Le MC Oran, lui, s'en passe seul de la deuxième place suite à sa victoire de 2-1 devant le CS Constantine.
Une note de transfert Élisée pour dire que Jacques Besson intéresse Al Ismaili.
Effectivement Idrissa, placé sur la liste des départs, l'attaquant du club africain de Tunis pourrait évoluer en Égypte dans les prochains jours. Selon Asaba News, l'international béninois est sur les tablettes d'Ismaili. Le bureau directeur du club africain ne s'oppose pas au départ de son joueur puisque le staff technique ne compte plus sur lui. Et puis maintenant avec vous Idrissa, le reste des résultats de la nuit.
Oui, et plusieurs matchs ont été disputés à cette occasion, dont le plus spectaculaire était celui qui a opposé les deux derniers champions de la NBA, les Golden State Warriors de Steph Curry et les Cleveland Cavaliers de LeBron James. Eh bien, LeBron et son équipe ont fini par l'emporter par un point, 109-108. San Antonio a battu Chicago 119-100. Minnesota a succombé à Oklahoma City 112-100. Boston a eu raison de New York Knicks 119-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons cette semaine notre rétrospective 2016 en passant en revue l'année qui se termine avec nos correspondants sur place. Aujourd'hui, le Mali, le Tchad et le Cameroun. Tout d'abord, le Mali. L'année 2016 s'achève dans ce pays comme elle avait commencé. Insécurité généralisée, attaque contre l'armée malienne et ses partenaires de la MINUSMA et Barkhane, mais aussi un accord, celui d'Alger, qu'on ne parvient pas à appliquer. L'année 2016, c'est aussi la disparition d'un journaliste malien qui reste introuvable, les violences contre les femmes, mais surtout la question migratoire qui est à la base d'une crise de confiance entre les Maliens et les autorités, nous rappelle notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
À cause de l'insécurité, le Mali est devenu un pays qui est permanemment en état d'urgence. Depuis janvier jusqu'à nos jours, cette disposition est en vigueur. Mais il n'a rien changé dans le comportement des Maliens.
Moi, je peux dire que c'est déjà un fiasco pour le gouvernement qui n'arrive pas à maîtriser même les foules, qui n'arrive pas à donner un contenu réel à cet état d'urgence. Bon, maintenant, jusqu'au 31, qu'est-ce qui va se passer?
L'état d'urgence qui devrait permettre la sécurité des personnes et de leurs biens n'a pas empêché la première disparition d'un journaliste au Mali, à la personne de Birama Touré, qui travaillait au journal Les Sphinx. Birama Fall, président de l'association des éditeurs de la presse.
Les sujets qu'il traitait, c'est des sujets qui ne fâchent pas. Et maintenant, ça aurait été un autre journaliste, je peux compter qu'il avait été arrêté. Mais la sécurité d'État, qui se cherche aujourd'hui, a choisi de nous accompagner. Il y a deux officiers suprêmes de la sécurité d'État qui sont en train de le chercher activement. Sans compter qu'au niveau des services de la police scientifique, on a fait une traçabilité sur son téléphone. Donc on est en train de voir à qui il a téléphoné, quand est-ce qu'il a téléphoné, où il a téléphoné.
Avant cette disparition de notre confrère Birama Touré, c'est une jeune dame du nom de Kamissa Sidibé qui a été assassinée par son mari à l'ACI 2000, le quartier des affaires à Bamako. C'était le 23 janvier 2016. Traoré Oumou Touré, président de la coordination des femmes du Mali.
Je ne suis pas venu seulement en femme, je suis venu en mère, je suis venu même en citoyenne pour dénoncer un acte et puis prier pour la bonne dame. Notre société ne connaît pas ça. Le mariage est une nécessité, mais tuer quand même n'est pas une nécessité. Et nous pensons que ces formes de violence sont étrangères à notre société. Il faut que tout le monde se mobilise.
En début février, c'est le rapatriement des Maliens de la Libye. Le dernier convoi qui était de 173 personnes est arrivé tard dans la nuit. Youssouf Sissoko, rapatrié. Mon neveu a été blessé. Il était avec moi pendant des années. Nous avons travaillé. Tout comme lui, celui-là aussi était dans une raffinerie. Il est tombé sous des balles ennemies. Personne ne sait quoi faire à Libye actuellement. C'est pourquoi nous avons sauté sur cette occasion. Au moment où l'insécurité battait son plein partout, il y a eu des vols d'armes dans les dépôts de certaines casernes de la capitale, ce qui augmenta la peur chez les Bamakois.
Il est inconcevable qu'il y ait des vols d'armes dans nos garnisons. D'autant plus que nos militaires se plaignent, tout le monde se plaint comme quoi nos militaires n'ont pas d'armes. Ils manquent d'équipement, ils manquent de tout.
Pour nous, le vol d'armes ne doit pas être une mince affaire. Comment à Bamako, on peut voler des armes dans un camp militaire? On pouvait comprendre si c'était un seul camp. Et jusqu'à ce jour, l'État ne dit rien par rapport à ces vols d'armes. Ça sent de l'impunité et de laisser aller au sein de l'armée.
En début mars 2016, ce sont des conflits intercommunautaires qui ont vu le jour, surtout dans les centres. La plus meurtrière s'est déroulée dans la commune de Nampala. Abba Ibrahim Abba, maire de Nampala.
Les victimes, c'est les 80% sont de Nampala, de ma commune. Rien ne vaut la paix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est déjà fait. Les morts sont partis, ils ne vont pas revenir. Mais seulement pensons à ramener la paix.
Mohamed Ad Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
Nous avons déjà la preuve que le les populations se sont réconciliées parce que la population peut, l'enquêtant, laisser ces animaux. Et la communauté Bambara a promis qu'aucun de ces animaux ne mourra de soif.
Comme à Nampala, dans plusieurs localités du Mali, il y a eu des attaques, des attentats, des explosions de mines qui ont occasionné la mort des militaires maliens, des casques bleus et même souvent des soldats de Barkhane. C'est dans ce contexte que l'an 1 de la signature de l'accord a été célébré. Mais un accord qui n'a rien changé sur le terrain.
Je pense que nous sommes presque à la case de départ. Le comité de suivi a eu du mal à s'installer et a du mal à travailler. Le cantonnement peine aussi à arriver. On avait fondé l'espoir sur l'entrée de la plateforme, notamment du Gatia à Kidal, et de l'accord signé entre la plateforme et la CEMA. On avait l'espoir donc que les choses allaient bouger, mais nous sommes, c'est toujours le statu quo. Et on avait surtout l'espoir qu'avec la tenue du forum de Kidal, les lignes allaient beaucoup plus bouger. Et jusque-là, on ne voit rien.
Aujourd'hui, les ex-rebelles refusent toute question de cantonnement tant que les autorités intérimaires ne sont pas mises en place. Une loi a été adoptée dans ce sens, mais tarde à être concret sur le terrain.
2016 au Mali, c'est aussi la tenue des élections communales. Après plusieurs reports, mais dans des conditions difficiles à cause de l'insécurité. Une insécurité qui persiste de nos jours. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, l'année qui s'achève a été marquée par une crise économique et financière sans précédent qui a plongé le pays dans une situation d'incertitude. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour renflouer le trésor public. Une décision qui a failli emporter le gouvernement actuel, nous dit N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
14 ans après l'exploitation de son pétrole, le Tchad a du mal à payer ses fonctionnaires à terme échus et financer le fonctionnement des services publics, surtout les deux derniers trimestres de l'année qui s'achèvent. Une tension de trésorerie que les hautes autorités justifient par la baisse du prix du baril du pétrole, alors que les organisations de la société civile parlent de la mauvaise gestion des ressources qui a conduit à cette crise. Ne pouvant plus supporter, les syndicats des travailleurs du secteur public ont déclenché une grève d'avertissement le 8 août 2016 avec service minimum dans les hôpitaux pour exiger le paiement de leur salaire, mais sans succès. Et c'est dans cette situation de crise de confiance entre les travailleurs et le gouvernement que le Conseil extraordinaire des ministres du 31 août 2016 a pris des mesures d'austérité tendant à réduire les charges publiques afin d'accroître les recettes. Voilà une goutte d'eau qui a débordé le vase. L'Union des syndicats du Tchad, le Syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur et la Confédération des syndicats des anciens du Tchad se sont regroupés dans une plateforme pour lancer une grève sèche qui paralyse l'administration depuis plus de 3 mois. Conséquence, les activités scolaires et académiques sont bloquées. Le premier ministre chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, a rencontré par 2 fois de suite les responsables de cette plateforme pour leur demander d'observer une trêve sociale de 12 mois.
Trêve qui nous permettrait de travailler ensemble pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté et vaincre ensemble la crise économique et financière que l'État traverse.
Barka Michel, l'un des porte-parole de la plateforme de revendication syndicale, répond à l'appel du premier ministre chef du gouvernement en ces termes.
La trêve pour nous, syndicalistes, c'est toute une discussion. Ça ne se décrète pas comme ça. Parce que pendant la trêve, c'est qu'on ne doit pas aller en grève, par exemple. C'est ce que le gouvernement veut, hein, dans la mesure où, pendant qu'on parlait, ils ont appliqué déjà leurs mesures qui ont été à l'origine de tout ce qu'on a vécu. Nous, on leur dit maintenant, suspendez ces mesures-là. Nous ne pouvons pas dire, allons au dialogue et voilà, on coupe les salaires des travailleurs. Déjà, un salaire qui ne permet pas aux gens de vivre correctement et en plus, un salaire qui n'est pas payé depuis 2-3 mois.
En rappel, cette situation d'incertitude a failli emporter le gouvernement actuel de Paimi Padake Albert. 22 députés de l'opposition ont initié une motion de censure contre le gouvernement pour refus de communiquer avec le peuple tchadien sur l'état de santé financière du pays, mais aussi lui demander de comptes par rapport aux militaires envoyés sur le théâtre des opérations de guerre à l'extérieur sans l'accord préalable de la représentation nationale. Programmé pour le 17 septembre 2016, les députés du MPS partis au pouvoir se sont entendus pour fuir les débats. Autre fait lié à cette crise, c'est la poursuite disciplinaire du secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad SMT Djonga Arafi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Bonne fin de l'année à tous les auditeurs de la VOA. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Merci André. Au Cameroun, l'année 2016 aura été pleine de rebondissements. Elle a été marquée par une succession d'événements négatifs, nous dit de Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Les films de la période sombre commencent en mars lorsque les images d'une femme éventrée gisant dans un bain de sang à l'entrée de la maternité de l'hôpital La Quintinée de Douala font le tour des réseaux sociaux. En effet, Monique commentait qu'elle serait décédée avant de pouvoir donner naissance à ses jumeaux et sa sœur, croyant sauver le bébé, a procédé à une chirurgie dans des conditions précaires. C'est face à ces images sur Facebook et autres que plusieurs Camerounais ont exprimé leur indignation, accusant ainsi le personnel médical du dit hôpital de négligence. Des mois ont passé et on se serait cru à l'abri des événements tristes. Seulement le 21 octobre dernier, le Cameroun vivra un des événements les plus tragiques de son histoire, à savoir le déraillement du train de la société Cambrai près de la gare de Seka dans la région du centre. Le train en partance de la capitale Yaoundé pour la cité économique Douala avait fait 80 morts et plus de 600 blessés. Cependant, le chef de l'État, Paul Biya, avait mis sur pied une commission d'enquête que devait présider le premier ministre. Seulement, les résultats devant déterminer la cause de l'accident n'ont pas encore été rendus publics, ce qui rend perplexe l'opinion publique. Quelques semaines après, c'est au tour de la région de l'Est de vivre un drame plutôt inhabituel. Il s'agit du décès d'une trentaine de personnes après avoir consommé l'odontol, une boisson alcoolisée fabriquée localement. L'année rétrospective au Cameroun s'achève avec des vagues de grèves tenues dans les parties anglophones du pays. En effet, les avocats et enseignants d'expression anglaise sont descendus dans la rue pour protester contre l'influence prononcée du français dans les zones anglophones du pays. Par ailleurs, l'on peut évoquer un aspect positif dans la succession des événements au cours de cette année. Les attaques perpétrées par les groupes terroristes Boko Haram deviennent de moins en moins régulières, ce qui a entraîné la réouverture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria après 3 ans de fermeture. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le chanteur britannique George Michael est mort à son domicile à l'âge de 53 ans, c'est ce qu'a annoncé hier son agent. La pop star a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et avait occupé plusieurs fois la tête des hit parades avec des hits comme Careless Whispers. Michael, le chanteur britannique décédé hier à l'âge de 53 ans. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Michel Joseph pour la mise en onde et à Jean-Roger Billon pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.